tirer des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Yann Bourdelas,
Baptiste Antoine,
Maïs Acostache.
Bonjour, bonsoir. Quand on pense aux enfants sauvages, on a souvent en tête des personnages de fiction comme Mowgli ou Tarzan. Celle dont nous allons parler aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec les héros d'Edgar Rice Burroughs ou de Rudyard Kipling. Non seulement Marie-Angélique Mémy Leblanc a véritablement existé, elle est née en 1712 et elle est morte en 1775, mais elle aura vécu plusieurs vies puisqu'elle sera passée d'un tipi d'Indien du Canada au confort bourgeois d'un appartement parisien en transitant par le château d'un vicomte champenois et le Marseille de la tragique épidémie de peste en 1720. Sauvage, la bande dessinée signée Aurélie Bévière, Jean-David Morvan et Gaël Hersant, édité par Delcourt dans la collection Mirage, vient de sortir et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Gaël Hersant.
Bonjour.
Bonjour Jean-David Morvan.
Bonjour.
Gaël Hersant, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé aux enfants sauvages ?
C'était juste un soir de décembre, en fait. J'ai navigué sur le web, je m'intéressais comme ça et je suis tombée sur l'article Wikipédia des enfants sauvages. J'ai lu les quelques lignes sur Marie-Angélique et je me suis dit que c'était fantastique et qu'il fallait en faire quelque chose, qu'il y avait un potentiel là-dedans et j'ai commencé à gribouiller.
C'est-à-dire que vous vous êtes dit, cette Marie-Angélique-là, c'est un personnage de bande dessinée ?
Personnage de bande dessinée, je sais pas, mais c'était un potentiel, une histoire tellement énorme que on pouvait en faire quelque chose de façon narrative.
Alors, et donc vous avez rencontré Serge Harold, qui a écrit un livre extrêmement précis dessus, c'est ça ? Et qui est un peu le spécialiste, enfin l'un des spécialistes, parce que c'est compliqué, il y a plusieurs versions en fait, hein, qui existent sur l'histoire de Marie-Angélique, et c'est la sienne que vous avez choisi de choisir, Jean-David Morvan.
On a choisi de choisir la sienne, effectivement.
Voilà,
mais Serge, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, et là où il a été très important, c'est que en fait il a pas vraiment, et étrangement, et c'est une des choses sur laquelle on a travaillé dans la bande dessinée, il a pas tenu compte de ce que Marie-Angélique elle-même avait dit lors des entretiens qu'elle avait eu quand elle était vivante, et parce qu'il a pensé que son passage, son retour à l'état sauvage, on expliquera ça peut-être un peu plus tout à l'heure, lui avait fait perdre sûrement la mémoire, qu'il y avait peut-être des choses qu'elle avait pas osé dire ou qu'elle avait occultées, etc. Et en fait, il est parti sur d'autres pistes, c'est avec un décalage de 10 ans. Et en fait, il a commencé à retrouver des documents sur elle, visiblement, et en fait, qui disent qu'elle est, elle vient d'Amérique, etc. Donc c'est l'histoire qu'on a découverte en fait avec Serge Harold est encore plus incroyable que celle qui était sur Wikipédia à l'époque.
Alors c'est dans la région de Songy, dans le département de la Marne, en Champagne, que cette jeune fille est découverte. Elle sera appelée d'ailleurs la fille sauvage de Songy. On est en 1731 et les premières images de l'album sont absolument saisissantes. Ça se passe dans la forêt et on la trouve à côté d'un cadavre.
C'est toi qui l'as dessiné, Agathe ?
Oui. Vas-y, mais c'est toi qui as décidé de la première image.
Non, oui, on a commencé là-dessus parce que en fait, c'est un personnage qu'elle a été persuadée pendant visiblement toute sa vie de l'avoir tué parce que on lui a dit qu'elle l'avait tué. Ça a été sa compagne pendant plusieurs années, une dizaine d'années en forêt. Elle l'aurait rencontré à Marseille après être arrivée en France. Et elles auraient remonté en fait ensemble toutes les forêts jusque à Songy où elle s'est fait attraper. Et en fait, cette personne a été tuée par des chasseurs visiblement. Mais elle est persuadée de l'avoir tué, parce qu'on lui a dit ça, et pendant des années, ça l'a hanté toute sa vie, visiblement, alors qu'il y a eu des témoignages disant que c'était pas elle qui l'avait tué, ça lui est resté en tête, et personne lui a dit l'inverse. Et donc, ce personnage était intéressant, et on fait le raccord avec la fin de sa vie, justement, et c'est pour ça qu'on commence là-dessus.
Oui, alors elle se fait prendre en chasse, hein, dans la forêt, par un groupe, de cavaliers, hein, ouais. Elle leur échappe dans un premier temps, mais la fin va la faire ressurgir, et là encore, deuxième choc, parce que bon, on a le cadavre de la première vignette. Et puis deuxième choc, elle va se faire connaître finalement des humains, des autres humains qui sont dans cette région en mangeant comme ça un chien de berger, en le mordant comme ça. C'est extrêmement sanglant cet album.
En fait, je crois que sa vie, elle a été sauvage. C'est pour ça, c'est pas pour rien que l'album s'appelle Sauvage. C'est-à-dire que ce qu'on montre dans l'album est peut-être paradoxalement encore moins violent par rapport à nous, en tout cas que ce qu'elle a vécu, puisqu'elle a vécu en mangeant des animaux crus, etc. Donc c'était son seul moyen de survivre. Donc pour elle, c'était naturel en fait.
Ouais, alors au début, alors c'est ça qui est à la fois drôle et terrible. Et ce qui en dit long peut-être aussi sur la mentalité de l'époque, c'est qu'au début on croit que c'est un garçon parce que bon, elle est toute noire, on finit par lui donner un bain, donc on découvre qu'en fait elle est blanche, et la réaction des villageois, c'est une bonne chrétienne.
Eh oui, aujourd'hui, on pense que tous les gens qui viennent du Moyen-Orient sont des musulmans. Et donc, je pense qu'à l'époque, on pensait que tous les blancs étaient des chrétiens. Ouais, c'est de bonne guerre.
Oui, il y a vraiment, Gaël Hersant, une sorte de fascination-répulsion hein, entre les villageois et le personnage de Marie-Amélie. Marie-Angélique, pardon.
Et ça ne sera pas que les villageois, en fait. Ça a été toute son époque. Toutes les personnes qui ont pu s'intéresser à elle ont vraiment eu cette attraction pour ce phénomène de foire, en fait, parce qu'elle a vécu 10 ans en forêt, mais d'où est-ce qu'elle vient, etc. Donc, elle va susciter toutes les réflexions de la nature. La nature humaine.
Oui, en plus, etc. On est en plein siècle des Lumières, hein, donc il y a beaucoup de curiosité scientifique autour de ça, on a envie de comprendre, quoi.
Mais au final, elle sera jamais réellement acceptée parce que elle aura toujours le côté sauvage. Alors qu'elle, si ça se trouve, n'avait qu'une seule envie, c'était d'être comme tout le monde. Et d'être totalement acceptée par la société.
En tout cas, on vient de loin hein, à songer pour la voir, on est page 22 de votre album.
Octobre 1731, château de Songy, Marne.
Entrez donc, mes amis.
Nous n'avons point aperçu la sauvagesse depuis notre arrivée.
C'est qu'elle aime à être libre de courir où bon lui semble, malgré la surveillance de notre berger.
Mais n'est-ce pas effrayant de la savoir ainsi errant sans surveillance ?
Certes pas, il est vrai qu'elle est un peu brusque, mais elle ne montre aucun signe d'animosité si on ne la touche pas.
Mais j'ai ouï dire qu'elle dévorait les enfants.
Allons donc. Effectivement, le pain la fait vomir et elle mange surtout de la viande crue, mais jamais des humains.
De la viande crue ? C'est pour le moins répugnant.
Je l'avoue, je ne m'y fais pas. Néanmoins, elle montre tant de bonne volonté et d'intérêt pour ce que lui enseignent les femmes que je ne désespère pas de la voir manger comme nous et dormir dans un lit au lieu du sol qu'elle semble lui préférer.
Sa divertissante compagnie me manquera. Monseigneur l'évêque de Choiseul a ordonné qu'elle soit transférée à la fin du mois à l'hospice de Châlons.
Elle ne cesse de s'enfuir, on craint pour sa santé. Et puis, les sœurs de l'hospice sauront peut-être mieux lui enseigner à bien se comporter.
Fichtre, j'ai voyagé 3 jours durant pour voir le phénomène, et j'entends bien ne pas repartir bredouille.
Je vous comprends. Sachez que le Mercure de France envoie quelqu'un la voir afin de publier un article à son sujet. Voyez qu'on vient d'encore plus loin que vous pour rencontrer la fille sauvage.
Jamais Songy n'avait connu pareille affluence.
Je ne l'aperçois guère.
Faisons le tour. Elle aime assez à se réfugier sur l'île.
En effet, elle est ici.
Ici et on la voit au bord d'une rivière en train de mordre dans une grenouille, apparemment l'un de ses mets favoris hein, de cette sauvagesse, hein, comme disent les gens de l'époque. La scène se passait chez le châtelain local, hein, le vicomte. Comment est-ce que vous avez imaginé graphiquement le visage déjà et cette figure de Marie-Angélique Gaël Hersant?
Parce que je me suis pas mal inspirée de toutes les photos d'Edward Curtis, même si c'est un siècle après.
Qui a photographié, qui a fait une sorte de travail ethnographique et anthropologique sur les Indiens d'Amérique du Nord. Hein.
C'est ça. Donc je suis partie de là, je suis aussi partie des gravures qui pouvaient y avoir des différentes tribus amérindiennes du XVIIIe siècle. Et après, j'ai essayé de comprendre comment ont été formées les caractéristiques du visage.
Donc des traits un peu à coup de serpe, assez durs.
Avec les pommettes assez,
assez
hautes. Et je me suis vraiment inspirée de ça.
Oui, les doigts crochus aussi. Là, ça revient un peu le mythe de la sorcière, peut-être.
Non, ça, en fait, c'est tout simplement parce que si mon souvenir est bon, c'est dans les textes de Madame Eke, où il la décrivent comme ça. Et il la décrivait aussi avec des pouces bien plus importants que ce que j'ai dessiné, tout simplement parce qu'elle en avait extrêmement besoin pour déraciner, pour fouiller la terre, pour grimper aux arbres. Et donc même son corps avait été déformé par son état.
Oui, à Songy, donc dans cette région de Champagne, le souvenir du personnage est encore vivace. Il y a une statue d'ailleurs, je crois. Et le tourisme local essaie d'ailleurs de prospérer aussi sur cette question-là. Est-ce que l'image est encore présente? Et est-ce que vous vous en êtes inspiré?
Apparemment, Gaël me disait qu'on l'appelait, on disait encore aux enfants il y a quelques années que c'était un peu le croque-mitaine local, qu'il fallait manger sa soupe ou dormir parce que sinon Marie-Angélique allait venir. Donc oui,
elle est... et pourtant, elle aime beaucoup les enfants dans l'album. En tout cas, elle a une vraie tendresse pour les bébés en particulier.
Non, elle avait l'air d'être plutôt sympathique en fait avec tout le monde. En fait, elle faisait peur, mais non, elle était sympa. Après, pour le tourisme à Songy, à mon avis, il y en a quand même pas beaucoup qui viennent voir la statue.
Oui, quand même pas. Mais après l'album, peut-être que on sait jamais. Ils misent dessus, je pense. Hein. Bon, voilà. Alors, il y a une deuxième femme qui a énormément d'importance aussi dans l'album, c'est la Vierge Marie.
Ouais.
Il y a souvent d'ailleurs des face-à-face comme ça entre elle et la Vierge Marie, qui nous permet d'ailleurs de découvrir par petites touches des traces de son passé.
Oui, avec la lune, etc. Ça, c'est son passé en Amérique. Il y a quelque chose comme ça d'un peu rassurant pour elle, je pense. Mmh.
Oui, d'ailleurs, parfois, il y a une dimension très iconographie religieuse dans la façon dont vous dessinez ce personnage.
En fait, pour avoir lu un petit peu et m'être enseignée sur l'époque, tout ce qui était religieux était extrêmement important. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a plus de mère, qui ne sait pas d'où elle vient, cette figure de mère universelle a dû la rassurer un petit peu. Et puis les couvents étaient quelque part des lieux très protégés, au final. Alors qu'elle, elle a plus aucune racine. Là, ça lui permet un petit peu d'être dans un lieu qui la protège.
Les souvenirs lui reviennent toujours par flash, de façon assez brouillonne, pas assez précise. Et en même temps, il y a toujours c'est souvent sur forme de double page. Donc avec le visage de Marie-Angélique et puis des petits dessins autour qui évoquent ses souvenirs. Et pas de phylactère. Vous pouvez pas poser des mots sur ses souvenirs?
Ouais, comme on avait beaucoup de pages, finalement, l'album il fait plus de 200 pages en fait. On s'est souvenu de quelque chose qu'avait écrit un dessinateur à cette époque qui s'appelle Herman il y a très longtemps. Il dit, dans bande dessinée, tout ce qu'on peut dessiner, c'est pas besoin de l'écrire. Et en fait, quand on n'a pas beaucoup de pages, on est obligé de faire des raccourcis et de passer par le texte. Mais là, on avait vraiment, je pense, de la place pour raconter des images et du coup, raconter des sentiments, des choses qui passent chez le lecteur autrement que par la tête, directement par les yeux. Et je pense que c'était le bon moment de le mettre en scène.
Oui, et tout ce qu'on voit effectivement dans ces fameuses double pages-là sont expliqués quelques cas plus loin.
Oui, il faut quand même raconter.
Petit à petit, oui, voilà, on voit effectivement tous ces souvenirs et tout ce parcours se dessiner. Le livre est divisé en séquences, d'ailleurs. À chaque séquence correspond une couleur. Hein. J'imagine que ça n'a pas été choisi au hasard. Je ne sais pas si c'est vous-même qui colorisez les...
Oui, c'est ça. J'ai vraiment voulu donner les émotions, en fait, aussi par la couleur. J'ai, à chaque fois, le soir, en général, je réfléchissais à ce que j'allais faire ensuite. Et je me disais, qu'est-ce que dans cette scène-là, j'ai envie de transmettre? Quels sont les points importants? Quels sont les sentiments importants? Et de trouver par rapport à ça les couleurs qui puissent soutenir.
Alors par exemple le violet. Alors par exemple, puisqu'il y a une période violette. Alors je sais pas si c'est comme Picasso, mais il y a une période un peu violette. Il y a une période plus ocre. Il y en a une autre plus rouge. Pas mal dans les jaunes et le beige aussi, et dans les verts aussi. Hein. C'est comme très varié, vous allez me dire, comme gamme de couleurs.
Les verts pour la forêt, tout simplement. Le jaune, si je me souviens bien, c'est les couchers. Pour le violet, j'ai un peu tout fait à l'instinct. J'ai réfléchi, mais sans vouloir mettre des mots particuliers. C'est juste qu'est-ce que j'avais envie de ressentir. Ça serait un peu compliqué à vraiment expliquer.
Thank you. reconnu Jean-David Morvan, ça vous dit quelque chose cette musique, j'imagine?
Non, j'ai pas reconnu.
Voilà, c'est dans le film L'enfant sauvage de François D'accord. Truffaut, hein, qui évoque un autre enfant sauvage, un Victor de l'Aveyron. Vous êtes allé regarder à côté de cette histoire-là aussi, parce que les parcours se ressemblent un peu et en même temps ils sont totalement différents.
Mais sur tous les enfants sauvages, il y a un peu quand même la même chose et
les difficultés d'adaptation, voilà, en particulier.
Et en fait, c'est vrai que c'est un problème qui a vraiment et qui, je pense, continue à interroger les gens sur l'inné et l'acquis. En fait, qu'est-ce qui nous forme? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce qu'il y a autre chose? Et ça, c'est très complexe. Et après, le débat sur les enfants sauvages est toujours très compliqué, à savoir qui est vraiment un enfant sauvage, qui n'en est pas un. Pour Serge Arol, par exemple, Marie-Angélique, c'est la seule vraie enfant sauvage. Puis pour d'autres, c'en est pas une, parce qu'en fait, elle a déjà eu une éducation avant de retomber dans la sauvagerie et de réapprendre, en fait.
Oui, c'est donc ça est assez complexe. Qu'elle apprend ou qu'elle réapprend si vite à parler, contrairement au personnage de Victor de l'Aveyron qui, lui, aura beaucoup plus de difficultés.
Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est à chaque fois des parcours très différents, puisqu'évidemment, on ne peut pas créer des enfants sauvages. Donc elle n'a pas non plus vécu avec des animaux, elle a plutôt vécu contre les animaux, c'est-à-dire elle s'est battue contre la nature d'une certaine manière pour survivre.
Oui. Donc, c'est une prédatrice, finalement.
Oui, c'est ça, c'est un animal de proie, ouais, c'est ça, exactement.
Cette saga, c'est aussi l'occasion d'évoquer l'histoire, hein, donc la peste de
ça,
Marseille en 1720. Elle a vraiment été là à ce moment-là. Elle n'est pas restée très longtemps, visiblement.
Normalement, ce que dit Serge Arol, c'est que effectivement, le bateau est arrivé à ce moment-là dans Marseille. Elle est restée quand même plusieurs mois dans la rade de Marseille. Et moi, je me suis demandé comment ça se faisait, parce que en regardant de la documentation, normalement, il devait être sur les îles. Le bateau aurait dû être sur les îles et pas dans la rade, et pas dans le port. Donc, on a essayé de trouver une scène qui expliquait pourquoi elle était là. Et puis, ça nous a permis, du coup, d'aller aussi chercher un peu sur la peste de Marseille, de mettre une homélie d'un prêtre, de mettre le vrai chevalier qui a aidé la ville, etc. Donc, on a aussi élargi au sens historique pour expliquer les choses dans leur ensemble.
Ouais, et puis, il y a une scène absolument incroyable. C'est quand elle va à Versailles et qu'elle force la porte du château et qu'elle se retrouve nez à nez avec la reine. Alors, là, on est en plein roman, là, c'est pas possible.
En fait, il est difficile de dire si cette scène est vraie. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a retrouvé la reine, puisqu'elle avait rencontré sa mère, qui s'était intéressée à elle plusieurs années auparavant. Pour être en train de faire une biographie de Louis XIV. Et puis, pour avoir travaillé un peu là-dessus aussi avec Gaëlle, on a découvert, ce qui paraissait logique, mais qu'on a oublié aujourd'hui, que Versailles, en fait, c'était la vitrine de la France et que les gens avaient le droit d'aller à Versailles. Mmh. C'était pas fermé, en fait. Alors, évidemment, il y avait des endroits où tout le monde ne pouvait pas aller, mais le peuple pouvait aller voir Versailles. Donc, elle a pu, en tout cas, rentrer jusqu'à un certain point dans Versailles. Après, il a fallu qu'elle rencontre
avec la reine. Ouais, on était sous Louis XV, hein, à l'époque.
Ouais, c'est ça.
Là, effectivement, mais là, c'est très, très romanesque, effectivement. Mmh.
Mais c'était intéressant, le choc, justement, de l'image. Là, pour le coup, c'est graphique. Ce qui était intéressant, c'était l'image de cette fille qui était carrément devenue à l'époque une SDF, comme on dit aujourd'hui, et qui finalement va voir la reine pour sauver sa vie. C'était intéressant.
On va marquer une courte pause et pour le flash. On se retrouve dans 3 minutes avec la journaliste Marie-Hélène Fries, qui publie L'impensable rencontre, chronique des sauvages entre guillemets, de l'Amérique du Nord. C'est aux éditions Albin Michel. Restez avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
Direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
Toujours avec Jean-David Morvan et Gaël Hersant pour l'album de bande dessinée Sauvage, une édition Delcourt, avec Aurélie Bévière. L'histoire de Marie-Angélique Leblanc, qui est née, on le disait dans la première partie de l'émission, dans une communauté indienne, une communauté Mesquiki, c'est ça, en tout cas, que vous avez choisi de privilégier comme hypothèse. On n'est pas totalement sûr, Jean-David Morvan.
Non, on a bêtement suivi ce que nous avait dit Serge Arol, parce qu'on a confiance en lui. Donc,
un petit peu moins bêtement que d'autres, quand même. Voilà.
Alors, on a essayé d'être pas trop bête, mais on est que ce qu'on est.
Bon, les Mesquiki, on les appelle aussi les renards, donc les fox en anglais, hein, c'est ça. Donc voilà, on va évoquer tout ça avec vous, Marie-Hélène Fraissé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, grand reporter au magazine Géo, productrice à France Culture. Vous publiez chez Albin Michel L'impensable rencontre, chronique chronique des sauvages de l'Amérique du Nord. Le mot sauvage est entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il peut choquer aujourd'hui. Quel était exactement le sens qu'il avait au XVIIIe siècle, à l'époque de Marie-Angélique?
Sauvage, étymologiquement, ça veut dire habitant des forêts. Donc ça correspond tout à fait au personnage qu'on vient de décrire. Et c'est un terme qui est utilisé pendant plusieurs siècles, puisque il y a une trentaine d'années, lors de mon premier voyage auprès des Indiens au Québec, quelqu'un m'a dit « Oh, bah, tu devrais aller voir la sauvagesse qui habite là-bas ». Donc, alors aujourd'hui, c'est un terme qui est plus politiquement correct. Donc d'ailleurs, mon titre, je crois, met un petit peu mal à l'aise les Québécois. Oui. En réalité, au départ, c'est pas un titre péjoratif, si vous voulez, la personne qui vit dans les forêts. Et les explorateurs, évidemment, se sont interrogés, eux aussi, sur la nature humaine, infra-humaine, des personnes rencontrées, donc, au cours des siècles de ce qu'on a pu appeler l'exploration.
Alors, pour commencer, pour continuer plutôt avec la sémantique, Marie-Hélène Fraissé, on se rend compte, juste en parcourant les pages de votre livre, que beaucoup d'États américains, au sein des États-Unis, ont des noms qui viennent directement de ces fameuses tribus indiennes.
Oui, au Canada et aux États-Unis, puisque c'est l'ère que je couvre. Il y a une mémoire, d'ailleurs c'est l'émotion que j'ai eue, puisque moi j'étais beaucoup sur le terrain, bien que ce livre soit un livre de texte.
Ah, totalement, oui, ça se lit comme un roman.
Hein. Oui, c'est une série, enfin c'est une sélection de textes qui sont difficilement accessibles et qui honnêtement, quand on les lit bon, dans la version originale, sont pas faciles à lire, sont longs, donc c'est un peu le choix le meilleur. Et quand on regarde les cartes, effectivement, c'est très émouvant, les cartes de l'Amérique du Nord, parce qu'on trouve d'une part des noms indiens partout, quand on les a laissés, et on trouve des noms français. Parce que les Français se sont avancés à l'intérieur du continent, très très loin, avant les Anglo-Saxons, et là je fais pas un cocorico, c'est un fait. Ils partaient à la rencontre des Indiens parce qu'eux faisaient le commerce des fourrures, et c'est de ça qu'ils vivaient. Et donc, ils donnaient leur nom à des endroits. Alors après, quand les Anglo-Saxons sont arrivés, parfois on a gardé le nom français.
Quand même, donc pas trop revanchard, hein, les Anglo-Saxons. Alors, Marie-Hélène Fraissé, vous avez choisi précisément de mettre vos pas dans ceux des grands explorateurs européens, donc il y avait des Espagnols, des Britanniques, des Français, Cavelier de la Salle, Champlain, etc. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur deux personnalités un peu moins connues, Louis Joliet et Jacques Marquette, qui sont partis à la découverte du Mississippi.
Oui, alors ils sont partis effectivement en 1673. Marquette, c'était un père jésuite.
Oui.
Et
un missionnaire, donc. Hein.
Oui, tout à fait. Mais c'est assez étonnant parce que les missionnaires sont un peu les meilleurs ethnologues de cette période-là, parce qu'ils décrivent les Indiens. Ils sont censés, chaque année, envoyer un rapport en France, puisque, vous savez, la France contrôlait beaucoup ce qui se passait au Canada, contrairement aux Anglais qui laissaient un peu faire leurs dissidents, etc. Et donc, ce père Marquette était un homme désireux de convertir, qui s'intéressait de très près aux cultures indiennes et qui décide d'aller voir donc jusqu'où va ce grand fleuve dont tout le monde a connaissance. Mais on n'est pas raccord, parce que les Espagnols sont déjà allés dans le golfe du Mexique regarder du côté du delta, et puis les Français ont commencé à s'aventurer par le haut. Alors il descend, et c'est une incroyable aventure, flanqué de Joliet, qui est un jeune garçon plutôt scientifique, et il descend à la rencontre, donc il descend dans l'inconnu, dans le blanc des cartes.
Et ils ont croisé ces fameux Mesquakers, ces renards, ces fox?
Alors non, les fox ne sont pas à cet endroit-là. Ils sont pas sur le parcours de Marquette et Joliet. Et d'ailleurs, bon, l'histoire des fox, moi, ça me fait ouvrir une petite parenthèse. C'est qu'on a longtemps dit que les Français avaient été de merveilleux amis des Indiens, contrairement aux méchants Anglais ou aux méchants Espagnols. La réalité, c'est que les Français travaillaient avec les Indiens. Et que quand ils ont été en conflit avec les renards, il y a eu une guerre, une vraie guerre des renards. Et probablement d'ailleurs que cette jeune fille dont on parlait a été rescapée de cette guerre qui a été terrible.
1712-1714,
oui,
hein, vous confirmez.
Et cette guerre a été terrible, on a éradiqué les renards.
Alors justement, il y a une scène qui moi m'a beaucoup étonné dans la BD, Gaël Hersant et Jean-David Morvan, c'est la scène où justement la mère de Marie-Angélique remet son bébé un Français. Et ça a lieu après, précisément, cette guerre. On se dit, les Indiennes avaient suffisamment confiance dans les Français pour qu'ils puissent prendre soin de leur petite fille?
Il y a ça, mais je crois qu'il a fallu que les Indiens fassent après avoir perdu la guerre fassent des dons aux Français en signe d'allégeance, je pense, et il se peut fort bien qu'elle ait fait partie de ces dons là. Donc
ils étaient très appauvris aussi. Vous savez, moi il y a quelques années, je suis allée en reportage à Bornéo dans un bidonville flottant. Vous savez, il y a une femme qui m'a tendu son bébé, qui m'a dit prends-le, emmène-le, il aura une meilleure vie avec toi. C'est un peu la même histoire.
Oui, c'est un peu ça, sûrement.
Ouais. Donc la petite fille va donc se retrouver dans une famille de colons à Fort Pontchartrain, hein, qui va devenir Détroit, c'est ça, vous confirmez, hein, dans l'État du Michigan.
Fort Pontchartrain, c'était un peu la tête de pont pour aller plus loin vers l'ouest, si vous voulez.
Voilà.
Parce que les Français, en fait, avaient semé toute une série de forts, et c'est là qu'ils vont être le long du Mississippi, après l'aventure de Marquette et Joliet. Donc, il y a Cavelier de La Salle qui prend possession. Et alors, vous voyez, pour les appellations indiennes, c'est assez amusant. Dans cette histoire, on voit qu'il baptise, parce qu'il veut quand même plaire au pouvoir, et il baptise le Mississippi fleuve Colbert. On a de la chance parce qu'il a été quand même débaptisé, il est resté Mississippi, ce qui veut dire dans les langues algonquiennes la grande eau. Alors pour revenir à Marquette.
Alors attendez, parce que oui. Les langues algonquiennes, il va falloir expliquer ça.
Oui, alors il y a des grands groupes de langues, hein, oui. les langues siouennes, les langues des Sioux, les langues algonquiennes, les langues des Iroquois, iroquoiennes. Donc il y a des grands groupes linguistiques répartis sur toute la surface du continent parce que il y a eu beaucoup de migrations. C'est encore très mystérieux parce qu'on sait que les Amérindiens venaient d'Asie, mais on manque de détails sur leur migration à travers ce continent qu'ils ont peuplé. Et quand les Européens arrivent, donc, et le livre L'impensable rencontre épouse le rythme de l'exploration, c'est-à-dire par grand espace, par grande région, donc ils rencontrent des cultures différentes. Et ce sont les Français qui s'avancent depuis la côte Est. Ce sont les Espagnols depuis plutôt le golfe du Mexique et la Floride, et également ils remontent le long de la Californie, et ce sont les Russes qui sont les éternels oubliés, mais qui arrivent du fin fond donc de l'Europe à travers l'Asie. Donc c'est un périple, c'est une espèce de parcours en miroir, si vous voulez, par rapport à la conquête de l'Ouest, hein. D'ailleurs, à un moment, ils se rencontrent et ils débarquent en Alaska en passant le détroit de Bering. Et évidemment, leur questionnement constant, et on revient au terme sauvage, c'est sont-ils des humains? Alors, très vite, on dit, oui, ce sont des humains. Il y a les plaidoyers des prêtres espagnols qui disent, ce sont des humains, il faut bien les traiter. Mais ça n'empêche pas les Européens, et ça se lit d'une manière terrible. C'est frappant dans ces textes. On n'est pas dans la rencontre de l'autre, on est dans la mainmise immédiate, c'est-à-dire je débarque, il y a des gens, il y a des champs cultivés dans certains cas, ce ne sont pas tous des chasseurs, certains sont cultivateurs, je suis chez moi, je plante ma croix, je prends.
Un petit indien.
Nagawika.
Chantait gaiement sur le chemin, Nagawika, Nagawika.
Chantait gaiement sur le chemin, Nagawika, Nagawika.
Quand je serai grand,
quand je serai grand,
Nagawika,
Nagawika.
J'aurai un arc et un carquois, Nagawika, Nagawika. Avec des flèches,
avec des flèches,
Nagawika,
Nagawika.
Je chasserai le grand bison, Nagawika, Nagawika.
Je chasserai le grand bison, Nagawika, Nagawika.
Sur mon cheval,
sur mon cheval,
Nagawika,
Nagawika.
J'irai plus vite que le vent, Nagawika, Nagawika.
J'irai plus vite que le vent,
autour du feu,
autour du feu,
Nagawika,
Nagawika.
Je danserai toute la nuit, Nagawika, Nagawika.
Je danserai toute la nuit, Nagawika, Nagawika.
Nagawika, Jackie Gallou sur RFI VMDN avec Jean-David Morvan et Gaël Hersant pour l'album de bande dessinée Sauvage chez Delcourt avec Aurélie Bévière et Marie-Hélène Freisset qui publie L'impensable rencontre chez Albin Michel. Impensable rencontre, c'est vrai, hein, parce que les explorateurs qui abordent ces terres et ces peuples inconnus d'Amérique du Nord, Marie-Hélène Freisset, vont de surprise en surprise quand même. Hein. Qu'est-ce qui les étonne le plus?
D'abord, je pense qu'ils sont constamment troublés parce qu'ils vont voir des comportements qui ne correspondent pas au code européens. Donc ils vont voir des gens qui sont à certains égards, pour un regard européen, d'une très grande cruauté, puisqu'ils pratiquent la torture d'une manière assez terrifiante. Ils sont très guerriers. Et en même temps, ce sont des gens du partage. C'est-à-dire, ce qui est frappant dans toutes ces premières rencontres qui sont décrites dans ce livre, donc par les protagonistes, c'est que quand ce sont vraiment les premiers, on leur donne de la nourriture, on les accueille, parce que l'Indien... à quelque sorte, l'Amérindien inscrit en lui l'autre. Il est commerçant et il voit arriver des étrangers. A priori, il se dit, nous allons pouvoir faire du commerce. Alors, donc, il y a ce trouble parce que ces gens sont... Et puis alors, il y a le... Pour revenir à Marquette, par exemple, il y a la stupéfaction et l'horreur ressentie par les missionnaires parce que ce sont des communautés dans lesquelles il y a une très grande liberté sexuelle. Et il y a en particulier des personnages qui choquent les missionnaires, qui sont les transgenres, les berdages, qui sont des gens qui ont l'air d'être des hommes et qui ont des prérogatives féminines, et vice-versa. Et il y a aussi des pratiques homosexuelles à accepter. Alors évidemment, les missionnaires sont horrifiés. Et d'ailleurs, chez les Espagnols, chez les missionnaires espagnols, ça donnait des choses horribles, puisqu'ils ont carrément envoyé les chiens de guerre contre les homosexuels. Donc l'Europe n'apparaît pas sous un jour forcément très très favorable.
Et puis très souvent, ils connaissent aussi très très bien la nature, les plantes. D'ailleurs, il y a une scène de la bande dessinée, Gaël Hersant et Jean-David Morvan, où Marie-Angélique montre à ses hôtes blancs qu'elle a de bonnes connaissances en botanique, et ça les étonne beaucoup.
Oui, c'était intéressant de montrer que en tant que sauvagesse, justement, elle avait aussi un savoir lié à la nature qui était plus important que pas mal de gens, parce que il fallait aussi montrer qu'elle a des avantages sur les autres, donc ça c'était bien.
Ouais, l'habitat des Inuits, par exemple, a beaucoup émerveillé aussi les explorateurs, Marie-Hélène Freyssinet.
Oui, parce que ils sont quand même dans des conditions qui, pour des explorateurs, apparaissent terribles, dans le Grand Nord, et ils ont réussi à trouver un équilibre. On a même parlé, pour certaines de ces sociétés, à juste titre, de sociétés d'abondance. Hein, il faut voir aussi que le désastre écologique qui va suivre l'arrivée des Blancs n'est pas encore commencé à cette époque-là. Et les Blancs, je dis les Blancs parce que c'est le terme qu'utilisent souvent les Amérindiens,
mais tout le monde comprend,
sont totalement dépendants de la nourriture des Indiens, parce qu'ils arrivent souvent avec très peu de compétences. D'abord, ils veulent chercher surtout de l'or, des richesses, donc ils savent pas cultiver la terre, et ceux qui savent cultiver la terre sont déroutés parce que c'est pas les mêmes sols, c'est pas les mêmes plantes, donc ils dépendent des Indiens. Ils arrivent, eux, avec leurs pacotilles, leurs perles de verre, leurs grelots, leurs tissus qui plaisent beaucoup, les outils bien entendu, les objets de métal, et au début échange nourriture contre objets. Mais au bout d'un moment, ça se raréfie, parce que le bateau n'a pas apporté un grand magasin, il a apporté quelques caisses, voilà. Et là, les rapports se tendent, parce que l'échange n'est plus égal.
Alors, vous parlez aussi, Marie-Hélène Freyssinet, dans ce livre, des grands noms qui ont permis aux Européens de découvrir la culture indienne. Je ne sais pas si on doit parler de la culture indienne ou des cultures indiennes.
Indiennes.
Vous utilisez le pluriel, alors, on est d'accord. Et ces gens-là, vous les appelez les attrapeurs d'ombre.
Les attrapeurs d'ombre, oui, enfin, c'est Dream Catcher, je parle de ça à propos de Curtis en particulier.
Mais je joue sur une image. Voilà.
Mais je joue sur une image, parce que l'attrapeur d'ombre, en fait, c'est celui qui attrape les rêves. C'est un peu le chaman qui va expliquer les rêves. Mais l'attrapeur d'ombre, parce que Curtis a fait une œuvre magnifique, qui est d'ailleurs une œuvre complètement, il faut le rappeler ici, complètement mise en scène. C'est-à-dire que les photos de Curtis ne sont absolument pas des photos ethnographiques, ce sont des photos posées, c'est-à-dire il prend des Indiens, il leur demande, ils sont déjà, on se situe à la fin du 19e siècle, ils sont déjà en partie acculturés, et il leur fait mettre les vêtements traditionnels pour poser. Donc on est déjà, vous voyez, dans le salon du photographe, comme chez nous, où on pose pour la première communion.
Oui. Alors il y a le photographe, et puis il y a aussi le peintre, Georges Catin, on l'a évoqué ici même dans VMDN il y a quelques mois, c'était le 6 mars dernier avec l'écrivain Patrick Grainville, qui publiait un livre intitulé « Bison » paru aux éditions du Seuil.
Catherine a pratiqué, a fait quelques portraits comme ça en majesté. Parce qu'il voulait, c'est vrai, bon, pas idéaliser les magnifiques des Indiens, mais ce qui a fasciné Baudelaire chez Catherine, c'est que souvent, c'est le naturel de Catherine plutôt. C'est des tableaux spontanés, c'est pas très bien peint parfois, on lui a reproché. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on a quelques grands chefs sioux. qui sont peints dans toute leur splendeur, avec les cordes de bison qui sont un symbole de l'hermine, tout ça, ce sont des attributs de la fierté, de la prestance indienne, mais c'est relativement rare, chez ses confrères c'est fréquent, lui les choses sont beaucoup plus, la peinture est pas épaisse, c'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup plus naturel, et ça a enchanté Baudelaire, ce qui n'était pas évident, quand il en 1845 arrive à Paris, il arrive avec des Indiens, et Baudelaire quand même, qui parlait de Delacroix, qui parlait de Rubens, est subjugué par cette peinture.
Et en particulier par les couleurs.
Le vert de Kathleen, c'est le vert de la prairie, c'est prairie, vous savez, c'est des milliers et milliers de kilomètres, c'est quelque chose de, c'est un vert lancinant, et Kathleen le traite de façon assez légère, très très belle, puis alors le rouge, c'est le rouge du sang, alors Baudelaire explique très bien ça, le rouge des blessures, le rouge vermillon, on vendait aux Indiens du vermillon, parce que c'est pour leur permettre de se faire leur signe et leurs emblèmes.
Marie-Hélène Freissé, vous partagez l'enthousiasme de Patrick Graville?
Oui, c'est vrai que Kathleen n'est pas un très bon peintre techniquement, mais que c'est étonnant comme aventure. Et il y a d'ailleurs un épisode que je raconte dans mon livre, je ne sais pas si Patrick Graville l'a raconté, c'est qu'à un moment, il a eu quand même très chaud, Kathleen,
ah oui,
parce qu'il est isolé chez les Indiens, et il commence à les peindre. Alors au début, bon, tout se passe bien. Et puis, il y en a un de la tribu qui commence à dire, mais il est tellement ressemblant, il pense que ça va être utilisé de manière magique contre les Indiens.
Tout à fait. Et là, c'est la base du livre de Patrick Graville.
Ça se passe très très mal, parce que là, il risque un peu sa peau.
Oui.
Ça, c'est la rencontre, si vous voulez, l'incompréhension mutuelle. Il y a un moment d'adaptation.
La peinture, elle est aussi présente dans votre inspiration, je crois, Gaëlle Hersant, pas forcément à travers Kathleen, mais plutôt à travers des peintres européens de cette époque-là, en fait.
Oui, tout à fait. Chardin, Watteau, Fragonard, ça m'a permis vraiment d'aller chercher toute l'iconographie, la documentation au niveau vestimentaire, au niveau du mobilier du XVIIIe siècle, et même pour les couleurs, en fait.
Même pour les couleurs. Jean-David Morvan, vous avez travaillé sur des bandes dessinées extrêmement différentes, hein, c'est le cas.
Oui.
De Sauvage, vous avez travaillé sur du manga, vous avez travaillé aussi dans l'univers Marvel, vous avez fait des bandes dessinées historiques, Le Débarquement, une biographie graphique de Jaurès récemment. Est-ce que vous travaillez toujours de la même façon, en fonction justement du sujet, du style de livre, ou au contraire, est-ce que ce sont des tâches et des travaux totalement différents?
Alors je travaille toujours à peu près de la même façon, c'est-à-dire assis sur mon canapé devant la télé, ça c'est sûr.
D'accord, et c'est plutôt confortable,
ouais,
ça vous inspire la télévision en fait.
Ouais, moi j'aime beaucoup.
Ah, oui.
Télé, ouais, parce qu'en fait je zappe et il y a des images très différentes qui donnent des chocs visuels qui m'intéressent beaucoup, donc voilà. Mais sinon juste oui, ce qui m'intéresse vraiment c'est d'apprendre des choses, et donc quand je les apprends, ce qui m'intéresse c'est de les redire aux gens. Et c'est pour ça que j'essaye de travailler sur plein de choses, parce qu'une découverte en entraînant une autre, il y a plein de choses passionnantes, et c'est ça qui est stimulant en fait. C'est pas tellement d'écrire moi qui me stimule, c'est de découvrir des choses. Donc je vais fouiller dans des livres, sur internet, j'achète beaucoup de trucs, je me renseigne sur tout et j'essaye d'en tirer quelque chose d'intéressant pour moi et qui je pense va être intéressant pour les autres. Mais
c'est-à-dire que pour écrire une bande dessinée comme Sauvage, il faut avoir sinon un savoir encyclopédique, en tout cas avoir vraiment une vraie connaissance du terrain pour pouvoir rendre cette histoire réaliste.
Mais disons qu'il faut surtout aller piocher des éléments, puis essayer de faire les connexions entre toutes les choses. C'est pour ça que je regrette de pas avoir lu ce livre avant, parce que c'est formidable. Moi, ça m'excite d'entendre ça. Voilà, je trouve ça génial de faire des découvertes comme ça au fur et à mesure. Ça me motivera pour faire des histoires tout le temps.
Marie.
Et alors, il y a des histoires justement autour des enfants, parce que on capturait les enfants. Et je pense que peut-être votre petite héroïne, c'est ce qui a pu lui arriver. C'est-à-dire avec une incroyable désinvolture. On voit ça très souvent dans les récits, donc de découvrir entre guillemets, ils voient sur le bord du rivage des enfants, des femmes et parfois des hommes, et ils s'en saisissent. Et ils s'en saisissent comme on ramasse des plantes, comme on ramasse des pierres, pour rapporter au roi ou au commanditaire pour dire j'y suis bien allé, voyez, je vous ai rapporté un sauvage. Et en même temps, ils ont une autre idée, c'est de s'en servir comme traducteur, c'est-à-dire on le ramène. J'ai presque envie de dire, on le rapporte hein, comme un objet. On lui fait passer l'hiver donc en Europe. On lui apprend la langue. Il devient traducteur et on le ramène comme ce qu'on appelait en vieux français truchement. Il devient un peu bilingue et c'est ce qu'on fait. Jacques Cartier, Verrazzano, les Espagnols ont fait ça. Enfin, et c'est étonnant parce que je veux dire, c'est quand même, ils sont pris évidemment contre leur gré. Et alors tous, on a des récits extraordinaires d'Indiens qui viennent chez nous, enfin les Européens, et qui nous critiquent, qui disent, mais vous dites que nous, nous sommes des sauvages, mais vous, regardez, il y a des pauvres dans la rue, alors qu'il y a des gens dans des maisons richement pourvues qui mangent à leur faim. Chez nous, c'est impensable.
Allez, on quitte l'Amérique du Nord, direction la Russie pour la suite de notre série de découvertes de caricaturistes du monde. Notre correspondante à Moscou, Muriel Pomponne, nous présente aujourd'hui un des caricaturistes les plus connus donc de Russie. Il s'appelle Sergueï Yolkin.
Je suis un dessinateur éditorialiste. Avant, j'étais plutôt un dessinateur, mais maintenant, je transgresse de plus en plus les frontières et je deviens journaliste.
Sergueï Yolkin était architecte, mais avec l'ouverture politique des années 90, il se lance dans la presse. Il s'essaie comme rédacteur, mais ses dessins ont plus de succès que sa plume. Il dessine maintenant pour le journal Moscow Times, le site polit.ru et Radio Liberté.
Pour réussir un dessin, il faut bien observer la situation politique, pas seulement en surface, mais aussi en profondeur. Il arrive qu'un homme politique prenne une décision que les analystes commentent avec des mots sophistiqués, alors que derrière cette décision, au fond du cerveau de cet homme politique, il y a ses troubles d'enfance, ses complexes. Ça veut dire qu'il faut trouver ce qu'il y a de plus profond, de plus primitif, de plus simple dans son âme.
Est-ce pour cela qu'il dessine Vladimir Poutine avec un visage poupin? J'étais un voyou de Voronège et lui un voyou de Saint-Pétersbourg. Alors je le comprends, dit Yolkin.
L'effet d'une caricature est atteint non pas quand le mal ou la lâcheté sont représentés de manière hypertrophiée, mais quand ils sont cachés derrière un masque de neutralité, quand l'émotion est transmise par une allusion, un clin d'œil, quand il y a un effet ricochet. Charlie, c'est une énorme tragédie. Et pour les caricaturistes, c'était comme un énorme coup de poing. Ma réaction a été la rage. J'ai ressenti le besoin de répondre, de me venger, de dessiner contre ces extrémistes, ces terroristes. J'ai dessiné un caricaturiste qui me ressemble, en colère. Il aiguise un grand crayon, comme un pieu, comme une arme. Oui, je dessine les sujets religieux. Je ne dessine pas le prophète Mohammed ou Jésus dans une position obscène. Mais j'ai dessiné sans problème il y a quelques jours un fanatique religieux, avec des vêtements musulmans, qui est en train de se faire une injection à l'aide d'un crayon sur lequel il est écrit « caricature ».
Un crayon, ça peut être une arme ?
Oui, la caricature fait partie de la propagande, et la propagande fait partie de la guerre. Donc oui, c'est une arme. Je veux la liberté d'expression dans mon pays, ainsi que la liberté de rassemblement. Je serai toujours du côté de ceux qui sont pour la liberté et contre la tyrannie.
Ces dessins éditoriaux ne lui valent pas que des amis.
Sur Internet, les partisans de Poutine me présentent comme un activiste proche de l'opposition. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on m'a envoyé une paire de béquilles livrées par un coursier. Il y a un dessin que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, qui a changé ma vision de la caricature. Et jusqu'à présent, je n'ai toujours pas compris la force de ce dessin. Je me suis inspiré de la fable « Le corbeau et le renard ». Je les ai dessinés assis sur une branche. Le renard dit au corbeau « Comprends bien que la question ne se pose même pas de me donner ou de ne pas me donner le fromage. » Et j'ai été très surpris, car ce dessin est devenu très populaire. Mikhail Kassianov, le premier ministre du président Eltsine, l'a affiché dans son bureau. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a trouvé ? Je ne sais pas. Ce dessin était aussi dans les bureaux des directeurs des grandes banques, dans celui du chef des huissiers. Pour moi, c'était un dessin quelconque. Pourquoi a-t-il eu une telle résonance ? Si vous touchez au bon endroit, la caricature aura une résonance à laquelle vous ne vous attendiez pas.
Vous pensez pouvoir faire votre métier encore longtemps ?
J'aimerais le faire le plus longtemps possible, mais je comprends que la situation dans le pays est telle que mon activité peut être interdite d'un jour à l'autre. Ils peuvent couper Internet, ils peuvent interdire tous les médias proches de l'opposition. Je le comprends, mais je ne peux pas savoir quand ça arrivera.
Reportage de Muriel Pomponne à Moscou. Gaël Hersant, Jean-David Morvan, la bande dessinée a rendu hommage à Charlie Hebdo à Angoulême. Évidemment, on y était lors du dernier festival international de la bande dessinée. Il y a aussi cet album La BD et Charlie, hein, dont nous allons parler d'ailleurs demain dans cette émission avec le caricaturiste Pascal Gros et Philippe Osterman, le directeur général des éditions d'Argo. Vous vous sentez en vraie communion, en vraie communauté avec les caricaturistes? C'est vraiment le même métier?
Moi, je l'ai pas ressenti au niveau du métier, je l'ai ressenti au niveau de moi, mais je peux pas dire que j'avais leur courage de faire des caricatures sur tout ça et de prendre tous ces risques-là. Moi, j'ai pas ressenti un seul moment qu'on faisait le même métier, j'ai juste ressenti le fait que c'était triste, c'est tout.
Gaëlle Hersant?
Un peu en connexion quand même, c'est difficile à dire parce que c'est pareil, j'ai pas le courage de critiquer, j'ai pas cet esprit d'humour noir et de regard aussi acéré, mais le fait de dessiner et de transmettre des émotions, de transmettre des idées, etc., et de communiquer, c'est un parallèle assez léger quand même, mais il est là.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. L'album Sauvage est donc édité chez Delcourt dans la collection Mirage. Merci également à vous, Marie-Hélène Freissé. L'impensable rencontre chez Albin Michel. Une pause et c'est le journal sur RFI. À demain, vous m'en direz des nouvelles.